C'est terrible, Jean-Marc. Jean-Marc, notre pasteur, le pasteur de cette église, on avait pris quelques jours de repos. Hein. Ben oui, il faut bien. Il trouve le moyen de nous retrouver. Tu serais pas là le 27, Jean-Louis ? A-t-il posé comme question à Agnès, parce que c'est Agnès qui a décroché. Ben si. Alors, bon, ben, tu apportes le message, voilà. On peut même plus s'abstenter. Il a été dit tout à l'heure par un don spirituel, ne vous apitoyez pas sur vos conditions de vie. Ce qui importe, ce qui compte, ce n'est pas l'opinion que vous vous faites de votre personne, mais bien ce que Dieu pense de vous et comment Dieu vous voit. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas la bonne ou la mauvaise opinion que je peux avoir, mais bien ce que Dieu pense de moi, comment il me voit lorsqu'il me regarde. Comment Dieu nous voit-il du haut du ciel ? Nous, c'est racheté. Telle est la question à laquelle nous allons essayer de répondre à l'aide de nos Bibles. Nous allons faire une lecture du psaume 73 dans son entier. Ce psaume n'est pas un psaume de David. Asaph en est l'auteur. Il en a écrit 11 autres, peut-être certains avec l'aide de ses fils. Il est chef des musiciens à la demande du roi David. C'est un percussionniste, un joueur de cymbales, un permanent et non un intermittent du spectacle. Alors, on va faire la lecture, si vous le voulez, bien du psaume 73. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promènent sur la terre, ce qui veut dire leur langue sévit sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale abondamment l'eau. Et il dit, Dieu, comment serait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que Dieu ait pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, que je me sentais perché dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? et sur la terre je ne prends plaisir qu'à toi ou qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Voilà ce que dit Asaph. Il écrit aussi, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Je tiens à vous rassurer, frères et sœurs, il n'y a rien d'anormal que de porter occasionnellement un regard d'envie sur les autres. Si de surcroît vous êtes découragé, déprimé, connaissant l'échec, la solitude, l'incompréhension, je dirais, c'est humain. C'est humain que de porter un instant son regard sur l'autre, de l'envier. Cela devient sérieux et anormal si vous multipliez ces regards d'envie. Savez-vous qu'il m'arrive parfois de m'extasier devant un Porsche Cayenne tout rutilant, devant un coupé Bentley, j'en ai vu un l'autre jour, décapotable, waouh, ou d'un coupé Jaguar, dernière mouture, c'est pas mal. Oui, c'est bien, hein, Michel, il approuve. Et Agnès de me dire tranquillement, posément, je suis ravi pour celui qui l'a. Point, passons à autre chose. Ah, mais c'est toujours la réponse qu'elle me fait. Hein. Je suis ravi pour celui-là. Donc, j'ai porté un instant un regard d'envie sur un Porsche Cayenne, sur une Jaguar ou un coupé Bentley. Ce n'est pas péché en cela. Ça deviendrait péché si vraiment ça devient une envie, quelque chose que je veux acquérir à tout prix, et quel que soit le prix. Asaph nous dit avoir été sur le point de ralentir son pas, voire de glisser, au motif que c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il déprime, mais il a l'honnêteté d'ajouter, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, que j'entre, comme cela nous l'a été dit ce matin, dans la présence de Dieu. Ou encore, que je connaisse, que je perce le dessein secret de Dieu. Découragement, lassitude, échec apparent, absence d'éclairage spirituel, de lucidité spirituelle, voire de connaissance spirituelle, ou tout simplement d'avoir mis en oubli ce que nous sommes devenus aux yeux de Dieu, peut nous amener à porter des regards d'envie sur ceux qui nous entourent et tenir des propos déraisonnables à ce moment-là, comme ceux d'Asaph. Oubliez que nous sommes devenus ses enfants par adoption. On est bien d'accord, nous sommes devenus ses enfants par adoption. Dieu est un père pour nous. Que notre nouvel état est celui de racheter par grâce. Nous le sommes. Et nous l'avons été au prix de la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Et que ce qui marque ce nouvel état n'est pas moins d'être né de nouveau. C'est quelque chose. Nous sommes nés de nouveau. Je suis né de nouveau un soir de juin 1972. Je suis né de nouveau. Vous connaissez ce verset de 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne prends aucun plaisir à parler de ma vie passée avant cette date de juin 1972. Je prends beaucoup de plaisir, et je peux être intarissable, à parler depuis cette date de ce qu'a été ma vie de nouvelle créature, parce que Dieu est bon pour nous. Alléluia, et qu'il fait de grandes choses et de belles choses dans nos vies. L'Écriture nous dit qu'au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Notre statut antérieur était celui d'hommes et de femmes perdus, dont les cœurs étaient oblitérés, marqués par le péché et voués à la perdition éternelle. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, c'est-à-dire défini par Dieu, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir ? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Voilà un texte qui est magnifique. Vous savez que cette lettre, cette épître aux Romains, est par excellence le document du salut. C'est à la lecture de cette épître que Luther, notamment, s'est converti. Notre statut maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, est celui de juste. Nous sommes des justes. Vous et moi, frères et sœurs, nous sommes des justes. Nous avons, vous et moi, la qualité de juste. Nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Par lui, nous sommes justifiés, c'est-à-dire par Jésus, lequel a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Mais alors peut-être déprimez-vous et vous vous dites, mais qu'est-ce que je gagne à être juste aux yeux de Dieu ? Qu'est-ce que je gagne d'avoir purifié mon cœur et d'avoir lavé mes mains dans l'innocence, disait Asaph. C'est peut-être la réflexion de quelqu'un parmi nous. J'ai même la conviction qu'il y a au moins une personne parmi nous qui est dans cet état d'esprit, de réflexion, se disant à quoi, qu'est-ce que je gagne d'avoir purifié mon cœur, d'avoir lavé mes mains dans l'innocence, d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. Alors, à l'aide du livre des Proverbes, nous allons tenter d'y répondre. 1. Dieu aime les justes. 2. Dieu leur est favorable. 3. Dieu leur donne une assise stable. Et en dernier recours, Dieu veille à leur bonheur, au bonheur des justes. Avouez que ce n'est pas mal du tout. C'est quand même assez positif. Je veux être positif. Et nous avons le droit de l'être en nous appuyant sur les déclarations de la parole de Dieu, bien évidemment. Dieu aime les justes. Proverbe 15:9, et c'est à l'aide du livre des Proverbes, hein, que nous allons voir cela. Proverbe 15:9, c'est un livre que j'aime beaucoup, le livre des Proverbes. Proverbe 15:9, « La voie du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui pratique la justice, ou qui la poursuit. » Qui peut se traduire par « Le Seigneur a en horreur la conduite du méchant, mais il aime celui qui s'attache passionnément à ce qui est juste. » Salomon, qui a consigné le fruit de ses observations dans le livre bien connu de l'Ecclésiaste, dit « J'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. » Rien de ce que nous faisons pour le Seigneur n'est perdu pour Dieu. Que de fois n'ai-je pas eu dans mon service pour Dieu le sentiment d'insuccès, d'échec, d'avoir perdu mon temps. Il n'en est rien, rien, même les moindres choses faites en son nom ne lui échappent, me vient à l'esprit ce verre d'eau que l'on donne à l'un des siens d'eau froide est porté à notre compte. Alors ce matin, je suis en train de vous donner un verre d'eau froide, au moins, si ce n'est pas deux, si ce n'est pas trois, c'est mis en compte. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur est mis en compte. Je vous prêche la parole, je le fais imparfaitement, mais je le fais en son nom, et ceci est porté à mon compte. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur est porté à notre compte. La poignée de main que vous allez donner en sortant, qui va être chaleureuse, le regard de compassion que vous allez porter sur le malheureux que vous allez croiser sur votre route, le timide sourire que vous aurez pour ce malheureux, tout cela est porté à votre compte. Vous êtes, je suis, nous sommes aimés de Dieu, et ce que nous faisons ne le laisse pas indifférent, mais toute chose que nous faisons l'intéresse. C'est ainsi qu'il est dit que l'homme de bien, dont la vie est bien réglée, dont la vie est conforme à ce que Dieu veut, s'attire la faveur de l'Éternel. Quoi de plus désirable que d'être aimé de Dieu et d'avoir sa faveur? Chaque matin, je peux me dire, nous pouvons nous dire, je suis aimé de Dieu. Et si un instant j'en doute, vous en doutiez, nous devons porter nos regards vers la croix de Golgotha, où Dieu fait le don de son Fils au monde, et ce Fils lui-même se donne pour nous pécheurs. Autant marqué, Christ est mort pour des impies. Par sa mort sanglante, horrible, infamante de la croix, il nous justifie aux yeux de Dieu. Amen. Alors Dieu nous est favorable. Il est favorable au juste. Proverbe 10, 24. Ce que redoute le méchant, c'est précisément ce qui lui arrive, mais Dieu accorde au juste ce qu'il désire. La peur du lendemain, la peur de la maladie, de la perte d'un emploi, tout ça, Dieu le voit. Dieu le sait. Dieu le comprend. Et vous devez avoir l'assurance dans votre cœur qu'il va remédier à une telle situation. Vous avez dans votre cœur des désirs pour vous, pour votre famille, pour un proche, pour un changement de situation, pour une guérison. Dieu va vous les accorder. Dieu accorde au juste ce qu'il désire. Dieu accorde au juste ce qu'il désire. L'angoisse vous assaille. Des peurs vous paralysent. Terrible angoisse quand ça vous prend. Hein. Ça peut aller jusqu'à faire mal, là, comme des J'en sais quelque chose. Le juste est délivré de la détresse et de l'angoisse, et le méchant prend sa place. Alléluia. Le juste est délivré de l'angoisse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà des versets qu'on devrait avoir continuellement présents à notre esprit. Vous êtes en droit d'attendre beaucoup de la part de Dieu. Il vous faut seulement, comme cela nous l'a été rappelé, mettre en lui votre confiance. Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui. Et d'ajouter, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts. Oh, pas peu de choses, hein. Une résurrection, c'est quelque chose. On aimerait bien voir quelques résurrections. Eh bien, cette même puissance qu'il a mise pour ressusciter Jésus-Christ, le ramener d'entre les morts, c'est cette même puissance qu'il a à notre disposition. Jésus ne nous dit-il pas « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai. Amen. » Relevons nos têtes si nous sommes découragés. Le meilleur est bien devant nous. Dieu peut dire à l'encontre de chacun « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Hein, » entendez bien. « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous a parlé à Agnès et à moi, il y a quelques années lorsque nous habitions Vannes et que nous sentions dans nos cœurs qu'il y avait pour nous autre chose que ce que nous vivions à l'époque difficilement. Alors nous nous sommes mis en recherche. Mais dans quelle direction regarder ? Où porter nos regards ? Alors il y a eu cet autre verset qui est venu un matin, temps bien éveillé, esprit bien clair. Quel est l'homme, la femme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. C'est rassurant, hein, quand on est à se demander quel choix vais-je devoir faire, dans quelle direction dois-je porter mes investigations, faire mes recherches. Mais j'ai trouvé une traduction de ce verset qui est la suivante. L'Éternel lui montrera la voie, c'est précis, l'Éternel lui montrera la voie qui a sa préférence. Alléluia. Non mais c'est formidable. Quand on veut bien ouvrir son cœur pour entendre ce que Dieu a à nous dire, il nous rassure toujours. Et me fait penser à ce verset qui nous dit que rien n'est au hasard dans la vie des rachetés ou au petit bonheur la chance. Ce verset, c'est celui du psaume 84, verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alléluia. Ça s'imprime en nous. Ça nous arrive. Puis ça s'imprime et puis on sait. On sait que c'est là que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes à craque de par la volonté de Dieu. Personne ne pourra me faire dire autre chose que cela. Nous savons que c'est là et bien là que Dieu nous veut. Amen. Dieu est bon. Troisième point, Dieu donne au juste une assise stable. Proverbe 10, verset 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Que le vent souffle en tempête, que des trombes d'eau incessantes se déversent et emportent tout. Comme la maison bâtie sur le sable qui est emportée, le juste est établi sur le fondement éternel défini par Dieu lui-même. Quel est ce fondement ? C'est Christ, le roc. Sa maison est bâtie sur le roc, sur du solide, un roc éternel. Le rocher frappé du Père. Et nous savons par le Proverbe 3, verset 33, que Dieu bénit alors la maison des justes. Votre maison est bénie. Et vous êtes bénis de l'Éternel. Renversez, Proverbe 12, verset 7, renversez, les méchants ne sont plus, mais la maison des justes subsistera. On peut penser à l'Église, qui est aussi cette maison de Dieu, où se tiennent les justes, où les justes ont plaisir à se retrouver comme nous ce matin. Et qu'est-il dit au sujet de cette maison ? Il est dit, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » C'est-à-dire que ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales, ni aucun ennemi ne pourra la détruire, la supplanter. C'est précieux d'avoir une assemblée où se retrouver. En plus, quand c'est suivi d'agape, c'est bien, c'est pas mal du tout. Hein. Nous pouvons être d'obscurs chrétiens, faisant peu de bruit, s'efforçant de nous tenir à la place qu'il nous a assignée. Cependant, nous sommes assurés que lui ne nous oubliera jamais. Au sujet du regard de Dieu, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. D'un seul regard, Dieu embrasse toute la terre, mais il est dit qu'il ne détourne pas ses yeux de dessus les justes. Dieu ne détourne pas ses regards de dessus les justes. Et puis, quatrième point, Dieu veille à leur bonheur. Proverbe 29, 6. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Il y a un piège, ceci peut se traduire, le méchant est pris au piège de son propre péché. La joie est pour le juste. Le salaire du péché, c'est la mort. Hommes et femmes sont enfermés dans ce péché, c'est-à-dire voués à la mort éternelle, qui n'est pas la fin de toute chose, mais la séparation d'avec Dieu. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de l'emprise et du pouvoir du péché, de ce péché qui s'exerce sur nous. Qu'est-il écrit ? Au sujet de ce péché maudit, Proverbe 29, 6, « Le juste en triomphe et se réjouit. » Justifiés par le Seigneur, nous sommes vainqueurs sur nos ennemis. Alors nos ennemis ne sont pas seulement des hommes, des femmes asservis par le péché qui peuvent exercer la méchanceté, car nous vivons aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, dans un monde qui est méchant, particulièrement méchant. On ne rend compte pas que des gens avec de bonnes intentions. Vous le savez, l'actualité est là pour nous le rappeler. Nos frères et sœurs persécutés en savent quelque chose. Et j'aime bien Marie-Yvonne qui souvent a une pensée et demande à ce que l'on prie pour les persécutés. Nous aussi, nous aimons à la maison prier pour l'Église persécutée. Et il faut le faire parce qu'il y en a qui sont vraiment dans des conditions effroyables. La parole nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10, verset 28. Ce fut la précédente méditation que je vous avais apportée sur les passereaux. « Le juste chante et se réjouit. » Dites-moi, quand chantons-nous ? Alors, je ne pense pas à ceux qui, lorsqu'ils ont bu ou trop bu, ont le vin gai, n'étant plus en phase avec les réalités. Non, non, je ne pense pas à ces gens-là. L'on chante quand on a le cœur heureux, quand on a le cœur satisfait et que l'on se sente en sécurité, en toute sécurité. La victoire sur tous nos ennemis nous est acquise à la croix, la stratégie du diable vouée à l'échec. Voilà pourquoi le juste chante et se réjouit, parce qu'il est en toute sécurité. Proverbe 3, versets 21 et 26. Ça va s'afficher, je pense. Proverbe 3, voilà. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, j'ajouterai comme Asaph. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3, versets 21 à 26. Tout ce qui a été affirmé ici est-il suffisant? Quelqu'un doute-t-il encore? Quelqu'un est-il taraudé par la réflexion d'Asaph, qui, vous le savez, fut très vite dissipé dès qu'il s'est tenu en la présence de Dieu? Direz-vous encore, qu'ai-je à gagner d'être juste? Juste aux yeux de Dieu, tu as tout à gagner et rien à perdre. Je pensais que ce serait là ma conclusion, mais ce matin, en me réveillant, j'ai été amené à... Alors, il était très tôt. J'ai été amené à aller dans le livre des Proverbes, chapitre 10. Juste pour énumérer quelques versets qui me sont apparus comme magnifiques. Il y a des bénédictions sur la tête des justes. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction, c'est-à-dire que partout où il passe, il laisse un bon souvenir. Et s'il vient à disparaître, hein, c'est la voie de la terre, sa mémoire demeure. Il y a encore la bouche du juste est une source de vie. La langue du juste est un argent de choix. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, c'est-à-dire qu'il est de bons conseils, et son témoignage porte du fruit. Ce que désirent les justes est accordé. Et au milieu de tout cela, de ces versets, l'on trouve au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Frères et sœurs, et je termine, cette bénédiction repose sur vous qui êtes devenus des justes aux yeux de Dieu. Il est écrit dans le psaume 5, verset 3, « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de la grâce comme d'un bouclier. » Ce sera là ma conclusion. Je vous invite maintenant à baisser les fronts pour que l'on prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est pleine d'enseignements, de promesses. Et j'ai eu ce matin plaisir à rappeler que tu nous vois chacun comme des justes, que nous sommes justes à tes yeux, non par nos mérites, par nos efforts, par nos œuvres, mais par grâce, parce que Christ a donné sa vie, qu'il s'est offert en rançon pour tous, qu'il a versé son sang, que tu as fait don de ce Fils au monde, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais possède la vie éternelle. Je loue ton nom pour cette bénédiction qui repose maintenant sur nous et pour ce statut de juste qui est le nôtre. Je te bénis, Père, et je te prie de bénir mes frères, mes sœurs, ce matin. Je le fais en ton nom, au nom de Jésus, parce que, Seigneur, tu nous es favorable. Et tu les vois différemment maintenant. Tu les vois avec des yeux et tu les vois juste à tes yeux. Père, merci. Merci de poser tes regards sur chacun et d'accorder à chacun cette bénédiction dont il a besoin. Réponds aux attentes. Accorde secours, délivrance, guérison même. Au nom de Jésus. Amen.